Alors, deux équipes font face à l'élimination ce soir dans le cadre du premier tour des séries éliminatoires. Et non seulement elles font face à l'élimination, mais font face à un potentiel balayage. Pour parler de ces séries fort passionnantes, accueillons un homme qui a enregistré pas moins de 116 points en 124 parties éliminatoires. Daniel Brière qui est là. Bonsoir, Daniel.
Salut Mario.
Juste avant d'entrer dans l'actualité des séries, écoute, ça te concerne, ça te touche de près. Alain Vigneault, nommé entraîneur-chef des Flyers. J'espère qu'on pourra lui reparler demain ou dans les prochains jours. Mais comment t'accueilles cette nomination? Comment c'est accueilli à Philadelphie?
Comme une très, très grande nouvelle. Les gens, la majeure partie des fans sont excités. Une des raisons, c'est quand on regarde son bilan, le bilan de sa carrière, ce qu'il a été capable de faire avec plusieurs équipes. Faut pas le cacher, là. Alain Vigneault, c'est maintenant un très, très grand nom dans le monde des entraîneurs de la Ligue nationale. Donc, d'après moi, là, c'est un très, très grand coup pour les Flyers. Puis les gens, les fans des Flyers sont déjà très, très excités.
Penses-tu que le travail, et c'est pas le seul cas, là, mais c'est celui qui est le plus récent, que le travail de Trotz, un entraîneur de carrière qui a eu un effet immédiat avec les Islanders, influence les directions d'équipe qui disent « Hey, ça me tente pas de faire des expériences, ça me tente d'y aller avec une valeur sûre, comme les Flyers le font là. »
Oui, oui. Puis je pense que c'était quelque chose de très, très important pour les Flyers. Ils ont eu Dave Axtell qui arrivait des collèges américains, qui a fait quand même du bon travail pour les Flyers, mais on recherchait là, un homme d'expérience, un gars qui... Parce que les Flyers, c'est une équipe qui est comme pris dans le milieu. Ils ont plusieurs bons jeunes, mais ils n'ont pas été capables de prendre le virage pour devenir une grosse équipe qui fait peur dans l'Est. Donc, avec un gars comme Alain Vigneault qui est capable d'amener ses équipes très, très loin, c'est ça là, qui rend les choses très, très excitantes pour les Flyers. Mais il n'y a pas de doute qu'ils cherchaient un grand nom comme entraîneur. On voulait pas se relancer avec un entraîneur recru encore une fois.
Les séries maintenant, Daniel, trouves-tu ça excitant depuis que c'est reparti?
Oui, il y a plusieurs bonnes séries. Il y en a quelques-unes où je suis très, très déçu, là, comme ceux de ce soir. Mais écoute, il y a des bonnes séries. Quand on pense à Toronto-Boston, hier, j'ai eu la chance de voir tout le match. C'était quelque chose à voir. Un des meilleurs matchs de série que j'ai vu depuis longtemps.
À ce point-là, Mitch Marner, Mario Tremblay, très impressionné par Mitch Marner. Je lui demandais, tiens, je te la balance, la même question. Quel joueur a le plus d'impact, tu penses, au sein des Leafs, Matthews ou Marner?
Ben, écoute, en ce moment, puis c'est très, très limité, là. On a juste trois matchs de jouer, mais jusqu'à présent, on doit donner l'avantage à Mitch Marner. Mais écoute, c'est deux bons joueurs de hockey, c'est deux joueurs, d'après moi, qui vont mener les Maple Leafs pendant plusieurs années en séries éliminatoires. Ils vont avoir besoin des deux. Puis ce que j'aime dans ces cas-là, c'est que c'est deux joueurs qui amènent des choses différentes. Quand on pense à Matthews, c'est un gros bonhomme, il a un gros lancer, peut marquer d'un peu partout, peut utiliser sa force physique pour déranger l'adversaire aussi. Tandis que dans le cas de Marner, c'est plus un producteur, c'est un gars qui va faire des jeux, qui va repérer ses coéquipiers, un fabricant de jeux beaucoup plus, mais on l'a vu encore hier, comment il s'est sacrifié, il a sacrifié son corps, deux gros blocs, en fin de partie pour donner la victoire aux Maple Leafs. Donc, quand des joueurs comme ça, des joueurs offensifs, se sacrifient, c'est bon pour le reste de l'équipe parce que tout le monde voit ça puis tout le monde veut suivre un peu le même chemin. Donc, c'est très, très bon signe pour les Maple Leafs.
Il y a quand même 224 points en 241 matchs depuis son entrée dans la Ligue. Là, c'est une grosse, grosse production. Je sais pas si c'est parce qu'il est droitier ou parce qu'il produit beaucoup, mais je le vois, j'ai des flashs de toi à tes bonnes années, Daniel, également, quand je vois Marner.
Wow, c'est gentil de dire ça, parce que c'est tout un joueur de hockey. Il m'impressionne à chaque match. Puis moi, ce que j'aime de lui, c'est qu'il semble... tout le monde alentour de lui, il semble amener les joueurs alentour de lui à être meilleurs. Puis tu sais, on l'a vu quand John Tavares a signé avec les Maple Leafs, a demandé d'avoir la chance de commencer de jouer avec Marner. C'est ce qu'il voyait en lui. C'est vraiment impressionnant. Déjà à son jeune âge, d'être un des leaders, un des meilleurs joueurs de la Ligue nationale déjà, là, c'est vraiment impressionnant.
Ton explication de la série Tampa Bay contre Columbus, 0-3 le Lightning, face au balayage ce soir, les gros canons tonnent pas fort. Ceux des Blue Jackets tonnent fort par ailleurs.
Oui, mais ça, c'est encore la preuve pour moi que les séries éliminatoires, là, c'est un autre, on dit en anglais, it's another animal, c'est un autre animal, c'est complètement, complètement différent. Le Lightning de Tampa Bay, là, ça fait à peu près 3 mois qu'on joue les matchs sans. Il n'y a pas d'urgence.
Le pilote automatique?
Même si on, oui, ben exactement. On perd cette coche-là, cette edge-là qui nous rend meilleurs. En saison régulière, on affronte une différente équipe à chaque soir. Il n'y a pas trop d'animosité. On peut faire un peu ce qu'on veut. Tandis que là, on arrive en série. Puis ils n'ont pas été capables de matcher l'intensité, la combativité des Blue Jackets. Moi, c'est ce que je vois quand je regarde des matchs. Il y a deux joueurs notamment qui m'impressionnent énormément du côté de Columbus. Quand je pense à Josh Anderson puis à David Savard, ces deux joueurs-là pour moi expliquent tout ce qui se passe dans cette série-là. Quand tu les regardes jouer, ils gagnent leur bataille. Ils sont physiques sur les joueurs du Lightning. Puis on n'a pas de réponse du côté du Lightning parce que on n'est pas capable de reproduire ce sentiment d'urgence-là qu'on a du côté des Blue Jackets. Puis il faut pas oublier, là, les Blue Jackets, ça fait longtemps qu'on est en mode séries éliminatoires juste pour entrer en série. Donc pour eux autres, là, c'est la même chose qu'on voit depuis les deux derniers mois. Puis le Lightning, ben écoute, pour avoir une chance, puis les chances deviennent de plus en plus minimes à chaque soir, là, à chaque défaite en séries éliminatoires, mais pour avoir une chance, on va devoir au moins élever notre jeu, notre intensité pour matcher celui de Columbus.
Tu sais, c'est quoi revenir d'une série où tu tires de l'arrière 0-3? Tu l'as vécu avec les Flyers, Daniel. Vois-tu le Lightning faire ça? On a vu les Kings faire ça. Ça s'est réalisé au cours des dernières années. Il y a deux équipes qui ont le mandat de le faire, ouais. Pingouins et Lightning. Comment ils peuvent opérer ça, toi qui l'as vécu?
Ouais, écoute, la façon dont on a joué les trois premiers matchs, je te dirais que non. Par contre, faut pas oublier le Lightning, là, c'est toute une machine de hockey quand même. Si on est capable d'élever notre intensité de 3 ou 4 crans, parce que c'est pas juste un cran que ça va prendre, ça va en prendre au moins 3 ou 4. Si on est capable de faire ça, s'il y a une équipe qui pourrait revenir, ce serait le Lightning, parce qu'on peut marquer des buts. On a une bonne défensive, même s'il n'y a pas Edmund, on a un bon gardien de but, donc ce serait possible. Mais on doit changer plusieurs choses. Puis pour le Lightning, ce qui va être important, tu peux pas gagner 4 matchs ce soir en partant. C'est de regarder, puis je le sais que c'est un cliché de joueur de hockey.
Un
match à la fois. Ouais, mais il y a pas plus vrai que ça. Quand je l'ai vécu, là, c'était un match à la fois. Tu te concentres sur ce que tu as en avant de toi. Si tu essaies de gagner le 4 matchs, puis quand on dit ça, ça veut dire que tu essaies d'en faire trop. Tu essaies de faire 3-4 buts personnellement par match. Tandis que si tu prends ça un chiffre à la fois, tu fais ce que tu as à faire, tu donnes une chance au lendemain. Puis c'est tout ce qu'ils peuvent voir, c'est tout ce qu'ils peuvent penser d'après moi. Tu peux pas penser trop loin. Mais écoute, les chances sont quand même très, très minimes que ça se produise.
Il y a eu quelques scènes disgracieuses depuis le début des séries. On sait que c'est toujours intense, c'est parfois violent. Bon, c'est sûr que c'est peut-être cliché de tomber dans le critiquage des arbitres qui serrent leur sifflet, mais y a-t-il un geste qui t'a particulièrement déplu depuis le début des séries dans ceux qu'on a vus, Kadri, Thornton, ou même la bagarre Zvechnikov-Ovechkin?
Oui, écoute, c'est les séries éliminatoires. Je peux comprendre un peu l'intensité. Dans le cas de Thornton, je pense que c'est arrivé quand même assez rapidement. Je suis prêt à... lui pardonner un peu plus qu'un gars comme Kadri où il avait le temps d'y penser, il savait exactement ce qu'il allait faire, ce qui se passait. Je pense que c'est une bonne décision du préfet de la discipline là, de le suspendre pour le reste de cette série-là. Mais j'ai vraiment pas aimé encore une fois la bataille de Ovechkin avec Svechnikov. Ça m'a fait beaucoup penser à ce qui est arrivé à Paul Byron plus tôt cette saison à Montréal, quand un gros s'en prend un petit comme ça. Puis tu sais, c'est un peu ce qui arrive de nos jours parce qu'il n'y a plus de bagarreurs ou parce qu'on les a éliminés. Ces joueurs-là peuvent s'en permettre beaucoup plus qu'auparavant. Tu sais, si c'était arrivé il y a 20 ans, Ovechkin aurait dû répondre à d'autres joueurs sur la patinoire, mais de nos jours, on n'a plus personne à qui on doit répondre. Donc, des fois, là, des gros bonhommes comme ça peuvent s'en prendre à des plus petits, malheureusement, puis on voit des scènes qu'on n'aime pas voir.
Donc, tu sembles avoir un œil plus critique envers Ovechkin. Est-ce que le jeune n'a pas une part du blâme d'avoir un peu peut-être voulu provoquer ça?
Oui, totalement. Mais de là acheter les gants avec un petit comme ça, parce que c'est Ovechkin qui a acheté les gants en premier, même s'il se regardait les deux, il lui a donné la chance. Un peu comme ça a été le cas avec Byron, on lui a donné la chance de jeter les gants, mais on sait quand même que c'est inégal. La bagarre était inégale entre un.
Le kid aurait dû faire semblant de jeter ses gants puis laisser Ovechkin les jeter tout seul, pogner un deux.
Oui, ben j'aurais mieux aimé ça. Puis je le sais que c'est pas toujours, tu sais, on est compétitif. C'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire parce que les joueurs sont compétitifs. Ils veulent montrer à leurs coéquipiers qu'ils ont pas peur, qu'ils sont là pour tout laisser sur la glace comme tous les autres coéquipiers. Fait que je comprends un peu ce que Svechnikov pensait, mais quand même, j'ai pas aimé ça. Tu sais, même dans le cas d'Ovechkin, il aurait dû juste se tourner la tête puis s'en aller ailleurs parce qu'il n'y a rien à gagner à acheter les gants avec un Svechnikov. Aujourd'hui, Ovechkin n'a pas de l'air plus tough, disons, qu'il l'était il y a quelques jours. Pour moi, il paraît encore plus mal avec ce qu'il a fait là, à Svechnikov. Puis surtout, un compatriote russe, ça m'a très, très surpris de ce côté-là.
S'il fallait que la Caroline revienne dans cette série-là, il l'emporte. Est-ce qu'on dira qu'ils se sont ralliés après cet événement-là?
Mais c'est fort possible. J'espère que ça va être le cas. Ça a été une domination nette hier de leur part. Je pense qu'on a surpris un peu les Capitals. Les Capitals pensaient peut-être que c'était pour être une série facile après deux victoires à la maison. Mais j'ai aimé ce que j'ai vu. J'ai aimé la réponse de la Caroline. On n'a pas lâché. Faut pas oublier que la Caroline, tout au long de la saison, c'est une équipe qui s'est battue. Ils ont dû se battre pour rentrer en séries éliminatoires. Donc, ils ont quand même beaucoup de cran là, de ce côté-là.
Daniel, 2-0 Tampa Bay en ce moment. C'est-à-dire, Columbus mène déjà 2-0. Dubois vient de scorer. Écoute, il n'y a même pas 4 minutes d'écoulée. T'enlèves-tu Vasilevski? Tu fais quoi?
Non, je pense que le match est trop important. À moins que ce soit des débuts complètement.
Non, il ne semble pas avoir été faible.
Mais non, je garderais Vasilevski. Écoute, c'est tout un gardien quand même, puis t'as besoin. Là, t'es rendu à la fin, t'as besoin de ton meilleur gardien. Tu peux pas l'enlever quand il reste encore 55 minutes à jouer au match.
Columbus est sur le bord de remporter la première série éliminatoire de son existence. C'est pas rien, si je me trompe pas. En tout cas, c'est quelque chose. Puis un mot en terminant, Daniel, as-tu apprécié la performance de ton ancien coéquipier Nathan MacKinnon hier?
Ouais, ben écoute, les deux derniers matchs, j'ai apprécié
ben oui.
Ce que j'ai vu. Nathan prend beaucoup de leadership dans cette équipe-là. Cette année, ça a été un gros step pour lui, une grosse étape de franchise de ce côté-là. Puis là, ça se poursuit encore en séries éliminatoires. Il m'impressionne de plus en plus. C'est le fun de voir ça. Parce qu'à un certain moment donné, quand j'ai eu la chance de jouer avec lui au Colorado, moi-même, je me posais des questions envers son leadership. C'est sûr qu'il est encore jeune, mais je suis très, très heureux là, de voir qu'il semble avoir tourné la page, il semble prendre contrôle de cette équipe-là. Puis on l'a vu les deux derniers matchs, c'est le fun de voir ça.
Toujours un plaisir de t'entendre, mon cher Daniel. Je te souhaite une excellente soirée. Vas-tu veiller jusqu'au dernier, dernier face-off ce soir, Vegas, San Jose?
Ben, ça, on va voir comment le match va se dérouler, mais il y a de bonnes chances qu'on soit debout à 7h.
Bon, ben, parfait, mon Daniel. Bonne soirée, on se reparle, j'espère, cette semaine, OK?
Toi aussi, Mario.
Bye-bye.
À bientôt.
On revient avec ton ami, d'ailleurs, Joël Bouchard, au retour. C'est le bilan du Rocket. Bye-bye.